Chapitre 5. Guenion, Lyon. Agnès Septembre, sa nièce. Anna Duguin, sa petite nièce. Jean Septembre, son frère. Daniel Septembre, sa sœur. Anna Septembre, née Ruben, sa belle-sœur. Louis Berthéol et Blaise de Sénéchal, ses amis. Mokhtar Bayram et le football club de Guenion ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Colette Septembre Bayram, née Septembre, survenue le 21 octobre 2010 à l'âge de 64 ans. Ses obsèques publiques auront lieu au cimetière de la Guillotière à Lyon à 14h30 le 15 novembre. Selon ses volontés, Colette a été incinérée. Ses cendres seront déposées dans le caveau familial. Condoléances sur registre. Cet avis tient lieu de faire part. 10 novembre 2010. Il n'y a presque plus que des morts. Ne reste qu'Anna pour avoir des enfants, pour que les actes de naissance remplacent les avis de décès. Anna est l'espoir. Voilà. Un jour, il faut choisir les bons mots, les bonnes formules. J'ai beaucoup hésité à nommer Georgette et Robin, mais je pense que Colette aurait détesté qu'ils apparaissent sur son avis de décès. Paul frappe et entre dans la maison. Il referme vite derrière lui, il sent l'hiver, le feu de cheminée. Son blouson est couvert de gouttelettes. Avant même de me saluer, il me dit pressé « On vient de recevoir la liste des gens qui ont communiqué avec Colette sur son fixe ces 6 derniers mois. On a identifié 4 personnes. » 4 personnes savaient que Colette Septembre était en vie. Mais qui, à part le bon docteur Pierry et Louis Berthéol? Je pense à Soutkovski. Il ignorait que Blanche reposait au cimetière quand il est entré ici. Qu'a-t-il fait dans cette maison à part me voler mes photos et appeler son portable pour enregistrer le numéro du fixe? On a relevé 3 empreintes différentes sur le téléphone, celle de ta tante et celle de Soutkovski. Il faut qu'on vérifie si les 3e sont bien les tiennes. Tu veux mes empreintes? Oui. Paul, on vit dans un polar. Je vis tous les jours dans un polar, Agnès. En me tendant la copie de la liste des numéros, Paul me demande de m'installer à l'hôtel en attendant. Je regarde la liste. Un seul numéro prend toute la place. Celui de Louis Berthéol. Il s'appelait plusieurs fois par jour. Tous les jours. Jacques Pierry téléphonait peu. Il passait. Soutkovski a composé son numéro de portable le 1er novembre à 23h. Et il a rappelé ici le matin du 3. Les appels répétés, c'était lui. Lui qui respirait fort. À qui appartient le 4e numéro? On n'a pas encore eu le temps de vérifier, me répond Paul. Attends, je vais le faire. Non, c'est à moi d'appeler en premier. Tu n'es pas censé posséder cette liste, c'est confidentiel. Mais Paul, il s'agit de ma tante qui vient de me laisser l'histoire de sa vie sur des cassettes audio. Si j'étais un bon flic, je devrais les saisir, tes cassettes. Mais je suis très mauvais avec toi, un vrai bleu. Quand Soutkovski t'a téléphoné, tu te souviens de ce que tu lui as dit? J'étais rentrée tard la veille, il devait être 8h du matin. J'ai cru que c'était Marie Roman et Héloïse Cardine qui m'appelaient depuis la maison de retraite. Qu'elles avaient peut-être oublié de me dire quelque chose. Tu as prononcé leur nom? Pas leur nom, mais leur prénom. J'ai dû dire Marie ou Héloïse. « Ou Amélie, c'est vous ?» Et il me semble avoir entendu un « oui » murmuré dans un souffle. « Tu crois que j'ai fait une connerie? Que je les ai mises en danger ?» Je sens que Paul me cache quelque chose. On a peut-être repéré Soutkovski à Sallanches, à Rodé, autour de l'établissement où Marie Roman résidait. Le temps que sa phrase atteigne mon cerveau et que je l'intègre, je parviens juste à articuler « Pourquoi résidait ?» Paul change de visage avant de murmurer « Elle est décédée ». J'imagine parfaitement la scène, pendant quelques secondes, mais j'ai le sentiment que le cauchemar s'éternise dans mon esprit. Soutkovski pénètre dans la résidence, monte les étages, un ou plusieurs couteaux dans la poche, entre dans la chambre de Marie. Elle le voit, le reconnaît, elle est épouvantée, paralysée, ne peut pas crier au secours. Il l'assassine froidement après l'avoir torturée. À cause de moi. Lorsque j'ouvre les yeux, je suis allongée dans la voiture d'un camion de pompiers qui roule vers les urgences de Paray-le-Monial. Paul me tient la main et me rassure aussitôt. Marie Roman est morte de sa belle mort. Je peux refermer les yeux. Je reprends connaissance dans une salle de consultation. Un jeune médecin me pose un tas de questions et fait une drôle de tête à chacune de mes réponses, surtout lorsque je lui parle d'une femme enterrée à la place d'une autre. Et quand je finis par lui dire qu'un meurtrier est entré chez moi, il serre son stylo un peu plus fort et commence à me regarder comme si je délirais. Pourtant, mes constantes sont bonnes, ma tension normale, et mes analyses prouvent que je n'ai ingéré aucun produit illicite. Après avoir examiné l'ensemble de mes organes vitaux, on me laisse sortir. Conclusion de l'interne, je suis fragilisée par une situation personnelle traumatique. Il me prescrit un léger antidépresseur, que je ne prendrai pas, et me conseille du repos. Ça fait 3 ans que je me repose. Il est temps que ça s'arrête. Paul m'attend à l'accueil. Je ne suis pas enceinte, je suis fragilisée par une situation personnelle traumatique. Depuis quand tu sais que Marie Roman est morte ?
Je l'ai appris en venant chez toi.
J'appelle aussitôt tous les soleils pour parler à Héloïse Cardine, qu'on finit par me passer. Je ne reconnais pas sa voix atone.
Bonjour Agnès. Amélie est partie la nuit dernière dans son sommeil. C'est moi qui l'ai trouvée ce matin. Son visage était apaisé. Sa sœur est là. Vous savez, la dame que vous avez rencontrée au cimetière de Flumet.
Oui, je sais. Vous êtes sûre que...
Que quoi ?
Non, rien. Merci, Héloïse. Elle me dit que ma visite l'a tranquillisée. Amélie était soulagée de savoir sa fille en sécurité auprès de ma tante. Elle tenait sa pièce d'identité contre elle et montrait son portrait à tout le personnel. Avant de raccrocher, je lui demande de me prévenir de la date et du lieu des funérailles. Décidément, dis-je à Paul, ça devient suspect tous ces gens qui partent dans leur sommeil, tu trouves pas ? Ma tante, Marie, Blanche il y a 3 ans. Normalement, on meurt de maladie, de vieillesse, d'un accident, d'une chute, d'une crise cardiaque, d'une embolie, d'un coup de fusil, de suicide, d'une rupture d'anévrisme, d'étouffement, de noyade, à cause d'un virus, dans un incendie. Autour de moi, les femmes meurent toutes dans leur sommeil. Ça fout carrément la trouille de s'endormir.
Tu veux passer à la pharmacie ?
Pour quoi faire ? Pour ne pas mourir dans mon sommeil ? Pour prendre les médocs que le toubib t'a prescrit aux urgences. Non, merci. Dépose-moi chez moi et j'irai au Monge avec la mairie.
Je t'attends devant chez toi pendant que tu prépares tes affaires.
C'est bon, Paul, je vais pas me faire assassiner.
Le portable de Soutkovski a borné hier à Mâcon.
Je croyais qu'il était à Sallanches.
Avant-hier. Hier, son portable a borné à Mâcon. C'est très bon pour nous. Il ne se doute pas qu'on a repéré son portable. On a de l'avance sur lui.
Sa grosse erreur, c'est de s'être rappelé de chez toi. Il y a toujours un moment où le suspect fait une connerie.
Il suffit d'attendre.
Il est minuit. Je suis arrivée ici depuis le 22 octobre dernier. En à peine 3 semaines, ma vie a changé. La valise aux cassettes repose au pied de mon lit. Le magnétophone, lui, est sur ma table de nuit. On m'a attribué la chambre 7. Un chiffre porte-bonheur. Tu t'enfermes à double tour. Oui, Paul, je m'enferme à double tour. C'est ce que j'ai fait quand Pierre est parti il y a 3 ans. Et j'ai bien l'intention de rouvrir tout en grand. Il va falloir réinventer le futur pour qu'il soit fou. Que les disparus me portent haut. J'ai hâte de serrer Anna dans mes bras. Elle me rejoindra le 15 au matin, avec Cornelia et son père, au cimetière. Il y a un café à côté, Les Passantes. Nom poétique pour un café de cimetière. On s'y retrouvera avant la cérémonie. Je me demande s'il y aura un peu ou beaucoup de monde autour de l'emplacement Septembre Ruben. Je me demande ce que ça va me faire de revoir Pierre. Je me demande ce que ça va me faire de voir Pierre à côté de Liès, Adèle, Hervé, Paul, Louis et les autres. Décidément, il y aura toujours un titre de Claude Sautet quelque part dans ma vie. Après l'enterrement qui n'en sera pas un, après l'encendrement, je rentrerai directement à Paris. Et puis, Anna reprendra l'école.
J'entends des bruits de pas dans le couloir. Le parquet craquait. Quelqu'un qui a le pas léger. C'est normal de rentrer se coucher à minuit. Dans un hôtel, ça va et ça vient toute la nuit. Tu t'enfermes à double tour. Contrairement aux autres, je n'ai pas peur de Soutkovski. Et j'ignore pourquoi. Je sais, je sens qu'il ne me fera pas de mal. Pourquoi en ai-je la certitude? Qu'est-ce que mon corps et mon cerveau cherchent à me dire? Pourquoi je tombe comme une mouche alors que cela ne m'est jamais arrivé? Pourquoi je n'ai pas peur de ce fou furieux? Blanche et Marie ont passé leur vie à le fuir. Si c'est lui qui est derrière ma porte, autant en avoir le cœur net. J'entr'ouvre sans faire de bruit et je vois Adèle pénétrer dans la chambre de Paul. Mais pourquoi faire? Lui changer un pansement? Lui faire une injection, une prise de sang? Des points de suture? Je retourne fissa dans mon lit pour cogiter sur mes jours à venir.